Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Agur a donc remporté la concession du service public de la distribution d'eau potable du SVL.
Et ce, à la surprise générale, puisque cela faisait 70 ans que Veolia détenait ce marché sur le bocage bressuré, une partie du Toircé et de l'Air Vaudet. C'est d'autant plus étonnant que le syndicat du Val-de-Loire saluait régulièrement la qualité du travail effectué par les agents de Veolia. Oui, mais voilà, Agur a présenté la meilleure offre pour les 10 ans à venir à partir du 1er janvier 2026, offre intéressante sur le plan financier et garantissant une gestion de très bonne qualité. Jean-Baptiste Fagald est directeur de zone chez Agur. Il a participé à l'élaboration de l'offre et aux discussions avec les responsables du SVL.
Agur, nous sommes une entreprise familiale, régionale. On fait partie du groupe Edchar, qui compte 2000 salariés dans le Grand Sud-Ouest. À Agur, on gère les contrats de villes comme la ville de Sainte, la ville de Villeneuve-sur-Lot, la ville de Cognac. On gère aussi les communes autour du bassin d'Arcachon ou toute la partie côtière du sud du Pays Basque.
Alors, vous êtes habitué à reprendre des contrats comme celui-ci. Ça veut dire que ça vous confère une certaine expérience dans ce type de situation ?
Oui, tout à fait. Ça fait plus de 20 ans que l'entreprise se développe. On a fait de nombreuses reprises de services, plus de 40 sur les 20 dernières années, je pense une bonne vingtaine sur les 10 dernières années. Donc c'est vrai qu'on a une expérience importante, on va dire, dans la reprise des contrats.
Mercredi soir dernier, au micro de Fabien Gazot, Dominique Régnier, la présidente du SVL, a indiqué que Agur, conformément aux dispositions en vigueur dans ses marchés de services publics, devrait faire des propositions aux agents de Veolia, sachant que 80% de l'activité de l'agence bressuraise est liée au syndicat. Jean-Baptiste Fagald.
On reprendra le personnel, en tout cas on fera des propositions pour reprendre ce personnel-là, des propositions qui sont à minima équivalentes à celles qu'ils ont aujourd'hui. Donc les salariés qui travaillent aujourd'hui sur le syndicat n'ont pas à s'inquiéter sur leur avenir. Nous leur proposerons des contrats équivalents à leurs contrats actuels. On a fait de nombreuses reprises, on a repris des salariés de Veolia, on a repris des salariés de Suez, on a repris des salariés de Sort, des différentes entreprises pour lesquelles nous rentrons en concurrence, et ça n'a jamais causé de difficultés. Aujourd'hui, ces différents salariés travaillent chez nous, sont satisfaits de leurs conditions de travail, et donc nous n'avons aucune inquiétude sur le fait de reprendre ces salariés dans de bonnes conditions pour eux, et nous avons tout à fait les moyens de les reprendre.
Veolia fait appel à pas mal de prestataires, visiblement. Vous avez plutôt l'habitude de travailler en interne, c'est ce qu'on nous a dit en tout cas.
Oui, exactement. On a plutôt l'habitude de travailler en interne. On prend aussi en considération les habitudes qu'il y avait sur un territoire, les bons fonctionnements qu'il peut y avoir aussi. On rencontrera aussi les entreprises concernées pour trouver le meilleur équilibre pour tout le monde.
Quant aux usagers, il n'y aura vraisemblablement pas d'incidence majeure. Le prix de l'eau facturée aux abonnés restant en effet toujours du ressort du syndicat du Val-de-Loire.
Michael Berthelot, nouveau président de l'ACAPEB des Deux-Sèvres.
À la tête d'une entreprise de travaux publics à Courlay, ce dernier succède à Sylvain Mullard, qui a démissionné en janvier dernier pour raisons personnelles. Michael Berthelot, alors l'un des vice-présidents, avait accepté d'assurer l'intérim de cette Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment des Deux-Sèvres, qui compte 550 adhérents pour quelques 3500 salariés, avant d'être élu par le conseil d'administration en début de cette semaine à Parthenay. Michael Berthelot.
Ce qui m'a surtout motivé, c'est les convictions que je porte à l'artisanat. Nos artisans de proximité, c'est votre plombier que vous connaissez dans la commune, que vous connaissez depuis des fois des entreprises de 2-3 générations. Donc c'est, je dirais, une confiance qui s'est établie. Et c'est pas rare d'entendre aujourd'hui un artisan qui me dit « Mais mon client, à la fin du chantier, c'était devenu quasiment un ami. » Parce que il y a des valeurs humaines qui sont partagées. Il y a ces valeurs de l'excellence aussi du travail. Nos artisans sont des artistes. Quand moi, un charpentier me parle d'une charpente qu'il a refait sur un monument ancien, on voit les yeux qui brillent, on voit qu'il est passionné par son métier. Quand un carreleur me parle qu'il a fait une douche à l'italienne, qu'il me montre des photos, on sent cette passion. Nos artisans sont pas des gens qu'on va trouver à 20, 50, 100 kilomètres, qu'on va trouver sur Internet ou qui vont être collecter, faire du démarchage à domicile. Nos artisans, on les connaît. On sillonne dans la commune, on croise des camions. Ça, c'est nos artisans de proximité.
Michaël Berthelot, le nouveau président de la CAPEB des Deux-Sèvres, élu donc en début de semaine, dans un contexte d'inquiétude pour le secteur en raison de la suspension du dispositif MaPrimeRénov'. Vous avez pu l'entendre sur ce sujet hier matin, ici même.
Ouvert en avril 2024, le Fab Lab de Mauléon inaugurait son entrepôt mercredi soir.
Une soirée pour remercier les partenaires financiers et les 40 bénévoles impliqués dans le projet depuis un an. L'espace de fabrication et d'entraide numérique est co-animé par le Centre socioculturel du Pays Mauléonais et l'association 3D Plantes depuis le 10 avril 2024. Deux associations qui ont fait du Fab Lab un lieu intergénérationnel qui a obtenu deux labellisations, d'une part EVS, espace de vie sociale, et tiers-lieu. Constance Michneau, animatrice numérique au CSC du Pays Mauléonais, devant Hugo Schwender.
C'est vraiment un espace de partage, une espèce de vie sociale et où on va vraiment entre personnes qui sont plus initiées ou passionnées, qui vont partager avec plutôt des débutants, on met vraiment ce terme-là en avance de partage de connaissances et de compétences.
Et puis, il n'y a pas que les jeunes finalement qui s'intéressent au numérique, il y a toutes les générations.
Tout à fait, c'est vrai qu'on est vraiment un espace ouvert, intergénérationnel, donc on va accueillir autant des groupes d'enfants d'accueil de loisirs, de collège, de lycée, mais aussi des retraités qui se posent des questions, qui ont envie de découvrir l'impression 3D, les casques de réalité virtuelle ou autres machines qui peuvent être mises à disposition dans le local.
Et puis c'est intéressant de voir justement cette diversité en fait.
C'est vrai que c'est un vrai partage, c'est une richesse de pouvoir justement autant avec les retraités qui sont très bricoleurs mais qui auraient peut-être pas forcément tous la fibre numérique, qui viennent partager avec des plus jeunes, et puis c'est les plus jeunes qui peuvent aussi montrer ce côté-là, sont un peu plus des fois nés avec un ordinateur ou un téléphone et qui ont envie de partager leur passion avec des plus âgés. Donc il y a un beau mélange.
Imprimante 3D, casque de réalité virtuelle, gravure laser et autres. Les financeurs ont pu découvrir tout le panel du Fab Lab mercredi dernier lors de l'inauguration du lieu Zone économique de la poterie. L'entrepôt est ouvert les mercredis et jeudis de 18 à 21h, le samedi de 9h30 à 12h30. Pour y accéder, le Fab Lab demande une adhésion au CSC et une inscription de 20 euros.
Le troisième Migrant Fête de l'Ardibe aujourd'hui.
Une troisième édition place Notre-Dame à Bressuire dans le prolongement de l'habituel cercle du silence. L'Ardibe, l'association pour la reconnaissance et la défense des droits des immigrés en bocage, fête ainsi leur arrivée en France, mais aussi tout le chemin parcouru par ces hommes et femmes. Gilles Maréchal, le président.
Le cercle de silence, ça sera prolongé par un temps festif avec des chapiteaux pour l'occasion, et puis il y aura des dégustations, il y aura des expositions, il y aura des chants, des danses, un peu de musique, ce que les immigrés apporteront.
Qu'est-ce que vous fêtez concrètement pendant cette journée?
C'est de fêter la présence des immigrés. Ils enrichissent la France, ils enrichissent le bocage au niveau économique, ils sont indispensables, et au niveau culturel, au niveau social, ils apportent très fort à la société locale.
Une expo, des témoignages sont donc prévu pour illustrer le parcours des immigrés migrants en fête. C'est ce samedi matin jusqu'à 15h tout à l'heure, place Notre-Dame à Bressuire, rebaptisée pour l'occasion la place de la fraternité, de la liberté, de l'égalité et de la solidarité.
Les bénévoles des vendredis de l'été se sont activés en cette fin de semaine au château de Bressuire.
Ils s'étaient retrouvés tôt hier matin pour mettre en place toutes les installations, chapiteaux, scènes, espaces restauration et buvettes notamment, avant le Rempart Festival de ce week-end. Et avec encore un temps plus ou moins incertain, les membres de l'association prennent leurs précautions avec la mise en place de bâches. Une journée de montage hier, toujours dans la bonne humeur pour lancer ce long week-end. Le président apprécie cette ambiance et loue surtout le travail des bénévoles et le soutien des partenaires. Jérôme Lollergue, au micro colline d'Hugo Schwender.
On est à peu près une bonne cinquantaine de bénévoles à créer et à faire fonctionner ce festival. Sans bénévoles, rien ne peut se faire. Sans bénévoles et sans partenariat des différentes entreprises bressuraises qui nous aident et qui nous permettent de faire ce festival gratuit. Alors les partenaires bressurais nous suivent et ça c'est une chance pour nous. Alors c'est beaucoup du relationnel, il y a rarement un gros retour financier, mais chaque entreprise bressuraise nous suit et ça c'est depuis 29 ans que les Vendredis de l'été existent. Et bien on a un réseau et très sympathique. Maintenant maintenant, on a aussi la mairie et puis l'agglo bressuraise.
Un soutien supplémentaire qui a permis d'attirer plusieurs groupes locaux importants. C'est le cas du groupe Cachemire, par exemple, qui se produira au Hellfest cette saison. La programmation devrait permettre au festival de dépasser l'affluence de l'an passé, selon le président. Et pour rappel, le Rempart Festival avait accueilli l'an passé 1500 personnes par soir. Le rendez-vous est donné dès 17h au château de Bressuire aujourd'hui et demain dimanche. L'entrée est à prix libre.
La romancière Anne Goscinny en dédicace à Thouars mardi prochain.
Invitée par la Société d'Histoire du Thouars, c'est Anne Goscinny, fille du scénariste d'Astérix et Obélix, animera un dîner littéraire mardi prochain, le 10 juin. Un dîner permettant de financer des actions de mécénat pour le patrimoine local. La rencontre est ouverte à tous, mais sur réservation. Deux possibilités. 06 75 08 37 19 ou par mail mécénat@chapte.fr. Auparavant, à partir de 16h, toujours mardi, l'autrice dédicacera son dernier roman, Mille façons d'aimer, à la librairie Brin de lecture. Aux côtés de son associé Vanessa Monteil, la libraire Mélanie Brimaud se réjouit de cette visite au micro Colline de notre correspondant Thouars et Dominique Hérault.
C'est l'histoire de Jeanne qui vit une relation d'amitié extrêmement forte depuis les premières années de l'école avec Raphaël. Et Raphaël va mourir d'une terrible maladie et donc elle adresse une lettre à cet ami perdu, à cet ami Raphaël, pour lui dire tout ce qu'elle a ressenti au moment de son décès. C'est presque une lettre d'amour et une déclaration d'amour, une déclaration d'amitié. Donc c'est très beau de ce point de vue-là. Après, on sent en même temps la souffrance que ça a été pour le personnage de Jeanne que de vivre ce deuil. Et puis ce qui est chouette aussi, c'est qu'elle écrit pour la jeunesse. Elle a une série, Le Monde de Lucrèce, à partir de 8-9 ans. On fait la démarche d'inviter des auteurs à la librairie pour partager des moments privilégiés autour de livres qu'on a particulièrement appréciés. Donc on a déjà eu l'occasion effectivement de rencontrer bon nombre d'auteurs à la librairie. C'est toujours des moments qui sont extrêmement riches pour nous libraires, pour le public. Et ça nous permet en même temps d'ouvrir la culture au plus grand nombre. Les retours qu'on a de notre clientèle sont plutôt très positifs. Ce sont des moments qui sont toujours appréciés.
Une bouffée d'air frais pour la petite mais très active librairie indépendante de la rue Porte de Paris à Thouars, elle qui résiste grâce à la fidélité des lecteurs et à son esprit offensif. Anne Goscinny donc viendra enrichir les rayons de Brin de lecture mardi prochain à partir de 16h avant d'animer le dîner de la Chapte sur réservation. Reportage signé Dominique Hérault. La salle Landrésienne à Saint-André-sur-Sèvre accueille à compter de ce week-end une exposition de peintures, de gravures et autres sculptures. L'exposition sera ouverte de 10 à 18 heures sans interruption les samedis et dimanches et sur rendez-vous à partir du lundi 9 et jusqu'au 13 juin. L'exposition se clôturera le dimanche 15 juin après le concert donné à l'église.